Bien, bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà très attentifs. Tout va bien, ne vous en faites pas. Ça va bien se passer. Je vous dis ça. Bon, j'ai choisi ce chant d'introduction parce que je suppose que tous ici, tant que nous sommes, nous avons besoin d'être enseignés. Non, Samuel, hormis Samuel, qui déjà sait tout, qui est déjà au ciel, et puis il a juste un petit pied sur la terre. Comme on t'envie quand même, hein, mais bon. Le commun des mortels, comme chacun d'entre nous, a besoin d'être enseigné. On est enseigné par plusieurs choses, et particulièrement en tant que chrétien, par la parole de Dieu. On est bien d'accord à ce niveau-là. J'ai choisi ce chant également parce que c'est un chant qui parle d'enseignement, mais aussi également de douleur. Alors, quand il s'agit d'être enseigné, on est à peu près tous d'accord. Dans la douleur, il y a déjà moins de candidats. Je vois, levez la main ceux qui ont envie d'être enseignés dans la douleur. Ouais, il y en a un là-bas. Bon, il y a aussi des sadomasochistes dans les églises. Bon. Ceci étant dit, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça, parce qu'en fait, j'ai choisi un passage long ce matin, et je voudrais aller dans la lecture du passage très long, malgré tout, parce que je pense que c'est primordial, et je vais même le diviser en deux, pour ne pas vous barber dès le départ. Alors, dans Deux Rois, vous avez l'habitude de lire le livre des Rois, également, tous. Ouais. C'est votre lecture quotidienne, j'ose dire. Et pourtant, dans le livre des Rois, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et vous allez voir, j'espère en tout cas que je vais rendre ce passage intéressant. Pour vous et pour moi, déjà, c'est fait, puisque j'ai passé pas mal de temps à l'étudier, et cela m'a beaucoup apporté. Alors nous allons aller dans 2 Rois 18, et nous allons lire premièrement du verset 13 au verset 37. Alors quand je vous dis que c'est long, c'est long. 2 Rois 18, versets 13 à 37. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib ou Sankérib, selon les traductions, roi d'Assyrie, monta contre les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis : J'ai commis une faute, éloigne de toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva tout pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tarsan, Rabsaris et Rabshaké avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Eliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shepna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshaké leur dit : Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit : Il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, « Vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem ?» Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce lieu et détruis-le. Éliakim, fils de Hilkija, Shebna et Joach, dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? Alors, Rabshaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel. Et vous vivrez, et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamas et d'Arpad ? Où sont les dieux de Séparvaïm, d'Eva et d'Iva ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, « Vous ne lui répondrez pas ». Et Éliakim, fils d'Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Alors, on va s'arrêter là pour cette lecture, hein, on va faire souffler un petit peu. Et vous aussi, peut-être. Et on continuera tout à l'heure. Alors, un petit peu d'histoire pour commencer. Au niveau chronologique, le règne d'Ézéchias est placé environ entre 716 et 686, mais d'autres disent que c'est entre 727 et 698. C'est très intéressant. Pour moi, je ne suis pas allé vérifier. Bon, c'est entre ces eaux-là, quoi. Entre 716 et 698, on va dire, dans une fourchette large. Ézéchias est fils d'Akaz. Et Akaz a régné 16 ans sur Juda. Je vous parle d'Akaz parce que, justement, la parole de Dieu nous dit qu'il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. On voit ça dans 2 Rois 16, 2, un petit peu avant. Si ça avait été que ça encore. Il est même mentionné dans 2 Rois 16, verset 3, qu'il fit passer son fils par le feu. Alors pas Ézéchias, évidemment, puisqu'il est là dans notre passage, mais un autre fils qu'il avait. Il l'immola au dieu Moloch. Comme quoi, Ézéchias avait une lourde hérédité. C'est le moins qu'on puisse dire. Ézéchias, quand il monta sur le trône, avait 25 ans. Un jeune roi, donc. On voit ça dans 2 Rois 18, verset 2. Et il régna 29 ans sur Juda. Un jeune roi, fringant, avec un papa pas très recommandable, on va dire ça comme ça. Et le début du règne d'Ézéchias est très particulier parce que la parole de Dieu nous dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Ah, ça va mieux. Par rapport à Akaz, on change de registre. Et c'est vrai que dans les rois d'Israël, et le roi surtout de Juda qui nous intéresse aujourd'hui, il y a peu de rois dont il est dit qu'ils firent ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Ézéchias en fait partie, et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'il a fait, Ézéchias, pendant son règne ? Eh bien, il fit ouvrir les portes du temple de l'Éternel et les fit réparer. Donc, s'il les fit ouvrir, Ça veut dire que son père les avait fait fermer. On a bien compris que son papa n'était pas très d'accord avec l'Éternel et que plutôt que de servir l'Éternel, il servait beaucoup d'autres dieux. Il avait même fermé le temple. Il fait également revenir les sacrificateurs et les lévites auxquels il leur donne l'ordre de se sanctifier et de sanctifier le temple et surtout de ne pas être négligent. Parce que pour Ézéchias, il est primordial de rétablir le temple de l'Éternel. N'oubliez pas, Ézéchias aime l'Éternel, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Les Lévites et les sacrificateurs entrent donc dans la cour du temple. Ceux qui voient, je pense, ne leur a pas trop plu. Ils entrent dans le sanctuaire pour le purifier. Ça leur prend pas mal de temps. Les idoles et les souillures sont évacuées vers le torrent de Cédron pour aller un peu plus rapidement, parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Et à ce moment-là, déjà, dans ma tête, je me dis, il y a déjà une application pour chacun d'entre nous. Et ce n'est que l'introduction. Alors vous imaginez le reste. Nous sommes dans l'introduction et cette application s'est imposée immédiatement à moi et à vous, j'espère. Faisons-nous du ménage. Vous faites du ménage chez vous pour que la maison soit à peu près acceptable. Mais est-ce qu'on fait du ménage dans nos vies? Est-ce qu'on se débarrasse de ce qui plaît, qui déplaît à Dieu? Ou est-ce qu'on garde dans quelques pièces des petits moutons sous les lits, hein, qu'on ne balaye pas tous les jours? Est-ce qu'on veut être agréable à Dieu et nettoyer notre maison intérieure? C'est toute une bonne question qu'on doit se poser chacun. Et Ézéchias se l'est posée pour la maison de l'Éternel. Non seulement il a purifié la maison de l'Éternel, il est venu à ses oreilles également qu'il y avait dans les parages un certain serpent d'airain. Ça vous dit quelque chose? Le serpent d'airain que Moïse avait fait fabriquer et que les Israélites lui brûlaient des parfums. Waouh! Vous imaginez, vous, en France, une nouvelle religion où on aurait brûlé des parfums devant la Tour Eiffel ou devant la Joconde, allez savoir. Mais bon, présentement, ce serpent d'airain avait une signification toute particulière, évidemment, pour les enfants d'Israël, puisque c'est ce serpent qu'ils avaient délivré des serpents brûlants dans le désert, vous vous rappelez? Vous n'êtes pas perdu encore, c'est bon. Il veut, Ézéchias, il sait que l'Éternel lui demande de ramener le cœur du peuple de Juda vers lui. Mais c'est pas un dieu, c'est pas un roi qui fait les choses d'une manière inconsidérée. Il est intelligent et il agit d'une manière intelligente. Il écarte tous les obstacles susceptibles d'empêcher la repentance du peuple de Dieu. Et une fois que tous ces obstacles et ces entraves sont écartés, à ce moment-là, il rétablit le sacrifice sur l'autel de l'Éternel, et pas avant. Une fois que tout est purifié, que le peuple est au courant que le roi Ézéchias, qui est en place maintenant pour les diriger, veut servir l'Éternel, à ce moment-là, il rétablit le sacrifice sur l'autel. Et les musiciens et les chantres reprennent leurs fonctions sacrées dans le temple également. Non seulement ça, mais le roi et les dirigeants du peuple se prosternent devant l'Éternel en signe de soumission. Alors, Ézéchias est un roi, il donne l'exemple. Il donne l'exemple à son peuple, il va se prosterner devant l'Éternel au vu et au su de tout le monde pour que son peuple fasse de même. Il envoie même des messagers dans tout Juda. Ça, c'est pas très méchant. Mais il va beaucoup plus loin, il envoie des messagers également dans le royaume d'Israël. À titre indicatif, Juda et Israël sont divisés depuis Jéroboam. Il y a eu le schisme, chacun est parti en Israël et, et Juda est à part. Eh bien, malgré tout, Ézéchias sait que le peuple d'Israël a besoin aussi d'adorer l'Éternel. Et il envoie des messagers pour essayer de faire revenir ce peuple à l'Éternel. Alors, une seconde application pour chacun d'entre nous, bien entendu, ressort de ce récit. Comme ces messagers, nous aussi, nous avons la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu, afin que les gens qui nous entourent passent des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. On est bien d'accord. C'est bien dans Matthieu 28, 18 qu'on nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Eh bien, Dieu nous a choisis pour cela. Et il nous envoie. Alors évidemment, dans le passage que nous lirons tout à l'heure, nous verrons que les messagers qui sont allés en Israël ont été reçus, alors très moyennement, on va dire, pour ne pas dire mal. Tout le monde se moque d'eux. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ceux-là ? Mais qui reste en Juda ? Nous, on a Samarie, on a tout ce qu'on a besoin d'avoir, on a des hauts lieux. Jérusalem ne nous intéresse pas. Mais malgré tout, ces messagers ont un impact et quelques Israélites écoutent et s'humilient devant l'Éternel parce que dans chaque peuple et dans le peuple d'Israël à ce moment-là qui était complètement en apostasie, il y avait quand même quelques Israélites qui aimaient l'Éternel encore et qui voulaient revenir à l'Éternel. Et ces Israélites ont été poussés par ces messagers à revenir à Jérusalem pour fêter la Pâque de l'Éternel. Une fois que les messagers sont revenus, les participants ont ôté les hauts lieux et ont brisé les statues et abattu les Astartés de tout le peuple de Juda. Ils ont purifié non seulement le temple, mais également le pays. Je vais un peu vite, parce que ça c'est un peu historique, mais on va voir que c'est la base de ce qu'on veut apprendre ce matin. Ézéchias poursuit donc ses réformes sacerdotales, il remet en place tout le service de l'Éternel, et il rétablit les Lévites dans leur fonction sacrée. Il y a aussi des réformes politiques, quelque part. Ézéchias se révolte contre le roi d'Assyrie, auquel il était assujetti, c'est-à-dire il payait un tribut annuel au roi d'Assyrie pour qu'on lui fiche un petit peu la paix. Il se révolte. Il va combattre également les Philistins avec un certain succès. Et nous arrivons réellement à ce que nous voulons développer ce matin. La quatrième année du règne d'Ézéchias, Salmanézer envahit Israël et assiège Samarie qu'il fait tomber en 3 ans. Alors, en ce temps-là, pour prendre une ville, on l'assiège. Vous avez vu les films de Moyen-Âgeux, hein, on met des échelles, on essaye de monter, hop, etc. Mais 3 ans, c'est pas si long. Il y a des villes qui sont tombées après 15 ans. Donc finalement, le roi d'Assyrie, ben, il mène ses choses assez bien et il arrive à faire tomber Samarie. Donc, à servir le peuple d'Israël, qu'il, d'ailleurs, il entraîne en déportation. Donc, ils sont envoyés, emmenés en Assyrie. À mon sens, c'est une juste rétribution pour avoir abandonné l'Éternel hein, et avoir servi d'autres dieux. On récolte ce qu'on sème, c'est ce qu'on dit. Ben, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. À ce moment-là, par contre, le royaume de Juda, lui, est revenu à l'Éternel. Et les réformes d'Ézéchias ont porté leurs fruits. On voit dans 2 Rois 18, verset 7, l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Cool. Il est tranquille, le peuple est tranquille, l'Éternel est adoré à nouveau. Tout va bien. Donc tout va pour le mieux en Juda. Ézéchias a courageusement pris position pour l'Éternel, et l'Éternel, évidemment, c'est un juste retour des choses. Béni Juda. Pourtant, quelque part, on se rend compte que Ézéchias aime l'Éternel, il a choisi l'Éternel, il sert l'Éternel, mais sa foi, est-ce qu'elle est vraiment fondée? Est-ce qu'elle est fragile? Est-ce qu'elle est forte? Et c'est à ce moment-là que choisit l'Éternel pour tester la foi d'Ézéchias. On verra, enfin on ne le verra pas ce matin parce que ça serait trop long, mais toute la vie d'Ézéchias est un test permanent en fait, pratiquement. De même pour nous, chrétiens du 21e siècle, hein, on est très évolués, Dieu également, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous, voulez laquelle en premier? Allez, elles sont bonnes toutes les deux finalement. Dieu veut tester notre foi, notre fidélité et notre confiance en lui. Ça ne lui suffit pas qu'on le lui dise. Il veut savoir si c'est réellement vrai. J'aimerais bien vous lire un passage dans 1 Pierre 4, versets 12 à 13, si vous voulez bien prendre le passage. 1 Pierre 4, 12 à 13. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Alors Pierre, il a un langage un peu bizarre pour nous actuellement, un peu comme Eric. Moi, je veux bien souffrir, je veux bien être enseigné en souffrant. Et Pierre, il était comme ça. Il ne faut pas s'étonner d'être dans la fournaise de l'épreuve, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une sinécure. Hein, il y a du boulot, et ce n'est pas toujours rose. Mais pourtant, quand on est avec le Seigneur, tout va bien, même dans l'épreuve. On a vu que la quatrième année du roi Ézéchias, Israël est emmené dans le peuple d'Assyrie. 10 ans plus tard, la 14e année donc, du règne d'Ézéchias, Sanchérib, donc Sanchérib, qui est certainement le fils de Salmanazar, ou en tout cas celui qui a pris sa place. Je n'ai pas regardé en détail, mais bon, ce n'est pas très important. Donc Sanchérib, roi d'Assyrie, envahit le royaume de Juda. Et il prend les villes fortes de Juda. Il recommence. Il a vu que ça marchait avec Israël. Il s'est dit, pourquoi j'irai pas à Juda? Jérusalem, c'est une belle ville. Elle ferait bien dans mon carquois. Je vais essayer de prendre, prendre Jérusalem. Il commence évidemment par les villes fortes de Juda pour affaiblir les défenses de Juda. La première réaction d'Ézéchias, qu'est-ce que vous en pensez? On l'a lu, n'est-ce pas? J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Alors, quelle est la faute qu'a commis Ézéchias, à votre avis? Il n'a pas payé. Il n'a pas payé ses impôts. En fait, on l'a vu tout à l'heure, il s'est rebellé contre le roi d'Assyrie. Ok. Et alors lui, ce qu'il dit, écoute, j'ai commis une faute, ce que tu me demanderas de payer, je le paye, et comme ça on est quitte. D'accord. Qu'est-ce qui a mené cette réaction dans Ézéchias? Eh bien, c'est la peur, tout simplement, qui l'a amené à faire un compromis avec Sanchérib, parce que le roi d'Assyrie était connu pour sa cruauté. Donc il s'est dit, si rentre dans Jérusalem, ça va mal finir. Hein, et on va passer un mauvais quart d'heure. Donc, il donne tout l'or du temple afin d'amadouer Sanchérib. D'ailleurs, un autre roi l'avait fait avant lui, donc peut-être il a pris exemple sur Joas, non pas roi d'Israël, mais roi de Juda, puisqu'il y en a deux, qui déjà avait fait cela avant lui, hein, dans 2 Rois 12-18, on le voit. Et il avait payé un tribut au roi de Syrie, cette fois, Hazaël, pour qu'il le laisse tranquille. Alors il s'est peut-être dit, ben, on va essayer de faire pareil. Si ça fonctionne, ça ne sera pas plus mal. Mais n'oublions pas que Dieu veut tester la foi d'Ézéchias. Donc cette fois, Dieu veut lui apprendre une leçon qu'on a tous besoin d'entendre et d'apprendre également, c'est que la paix véritable ne s'obtient pas en faisant des compromis avec l'ennemi. Alors ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner au départ, mais on verra par la suite que c'est un coup d'épée dans l'eau. Proverbe 29, verset 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. » Amen. Ok. Pourtant, ce n'est pas ce qu'Ézéchias a fait. Il a eu peur, il s'est confié dans le trésor qu'il pouvait donner au roi d'Assyrie pour essayer d'avoir la paix, en quelque sorte. Alors, Sankérib, lui, il n'est pas bête, hein. Il prend la rançon, ça s'est déjà pris, mais évidemment, il n'en a pas assez. Il revient rapidement à la charge pour assiéger Jérusalem cette fois. Quel n'est pas le désarroi d'Ézéchias et du peuple de Juda. Il dit, mince, ça n'a pas fonctionné. Le compromis, c'est pas toujours évident. Alors quand même, Ézéchias se reprend. Il reprend courage. Donc il a une réaction quand il voit Sankérib arriver. Il dit, mince, maintenant il faut prendre des décisions parce que je ne pense pas qu'en lui donnant 4 pièces d'argent, ça va se régler. Là, il est là, c'est pour vraiment faire tomber la ville. Donc il reprend courage, il tient conseil avec ses chefs et organise la résistance. Il prépare la guerre en reconstruisant déjà les murailles de Jérusalem qui sont un peu branlantes. Hein. Et il galvanise le peuple. On voit ça, par exemple, dans 2 Chroniques 32, verset 7. Je ne vous ai pas dit, mais 2 Rois, si vous le lisez avec Chroniques, c'est bien. Vous avez une vue beaucoup plus d'ensemble. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu qui nous aidera et qui combattra pour nous. Je crois qu'Ézéchias est en train de comprendre là. Ce que l'Éternel veut lui apprendre, ben, ça commence à rentrer. Il dit ouais, les solutions humaines n'ont pas fonctionné. La solution de Dieu, je pense, va mieux fonctionner. Tout le peuple aide à la défense de la ville. Et nous, quand l'ennemi nous attaque, nos réactions également peuvent être dictées par la peur. Ça nous arrive. Qui n'a pas eu peur d'une attaque de Satan à un moment ou un autre de sa vie? La peur des moqueries. La peur de l'échec. Du rejet. Ou de la chute, tout simplement. Ou de la différence. C'est vrai que quand on suit l'Éternel, on est différent des autres. C'est tant mieux. Mais est-ce que c'est toujours bien perçu par ceux qui nous entourent? Non. Le compromis avec le monde n'est jamais une solution que Dieu bénit. Ça, c'est un incontournable. L'épreuve se répète jusqu'à ce qu'on fasse face et que l'on prenne les solutions qui honorent Dieu, par contre. Dieu est un Dieu miséricordieux et Ézéchias l'a appris également. Il n'a pas lâché le morceau, Dieu. Premier compromis, je reviens à la charge. Il dit, je veux que tu comprennes que c'est moi qui vais te délivrer, c'est pas ton or qui va te délivrer, ou même ta puissance, c'est moi. Le combat contre le péché, c'est pour tous les chrétiens, par contre. Et pas seulement les super chrétiens. Vous savez, déjà, les super chrétiens avec les capes et tout, eux, ils sont bons pour tenir ferme contre le péché. Mais nous, les petits chrétiens de tous les jours, on se dit, ouais, mais bon, on n'est peut-être pas aussi bien armés qu'eux. C'est pas si grave si on chute de temps en temps. Eh bien non, Dieu ne voit pas ça comme cela. Tous à notre niveau, nous avons des défis à relever et des batailles à livrer, c'est vrai. Mais Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Et Ézéchias arme ses troupes. Dans le passage, il nous dit avec des javelots et des boucliers, des armes offensive, mais aussi défensive, bien entendu. Et si nous lisons dans Éphésiens 6:13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté, ça ne vous étonnera pas. La vie chrétienne est un combat. On est souvent assiégé par l'ennemi, on a besoin d'avoir des armes, et pas les nôtres. Et nous avons à notre disposition, bien entendu, toutes les armes que Dieu nous a données. J'aimerais qu'on revienne sur notre passage un petit peu. Parce que Sanhérib, lui, il a une stratégie quand même. C'est un homme de guerre. Ce qu'il veut, c'est faire plier Ézéchias et envahir Juda. Donc il va mettre en place sa stratégie. Il envoie déjà trois dangereux personnages, si j'ose dire. Son général en chef, évidemment pour livrer bataille, logique. Mais par contre, il envoie aussi le chef de ses serviteurs, imaginez-vous pourquoi, pour asservir le peuple. Et son grand échanson, pour les séduire et les tromper. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Non? Moi, je le connais. On va le voir plus tard. Alors, il utilise plusieurs stratagèmes. Le premier stratagème qu'il utilise, c'est l'intimidation. Dans la guerre, c'est pas nouveau. C'est de l'intox, comme on dit ici maintenant. Ouais. Rabshakeh parle avec arrogance. On voit ça au verset 19. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et au verset 20. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Waouh. Il a de la confiance en lui, du charisme, et c'est souvent le premier stratagème de Satan pour nous tromper. Si tu choisis de désobéir à Dieu, ou si tu choisis d'obéir à Dieu, tu vas avoir plein de conséquences désagréables. Et tu vas subir plein de choses désagréables qui ne te plaisent pas. Il utilise également un autre stratagème, qui est un peu plus subtil, je trouve. Il utilise la convoitise et le compromis. Le compromis, on a déjà vu ça, Ézéchias aussi le connaît. La convoitise, c'est un peu plus subtil. Au verset 23, il dit à Ézéchias, « Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. » Vous avez déjà vu beaucoup de gens qui font la guerre et qui disent à leur ennemi, « Écoute, si tu te rends sans combattre, je te donne 2000 chevaux. » C'est cool quand même. En général, il leur coupe les pieds et on n'en parle plus. Non, là, il essaye quand même. J'ai l'impression que le roi d'Assyrie n'a pas trop envie de s'épuiser à faire la guerre à Jérusalem. Il a déjà fait ça avec Samarie. Ça a dû lui prendre pas mal d'énergie. Donc il se dit certainement, si je peux les faire plier sans livrer bataille, ça sera peut-être pas plus mal. Et Satan essaie de nous tenter, évidemment, et d'allumer aussi notre propre convoitise. Ça, c'est pas nouveau. Si tu désobéis à Dieu, je te donnerai des richesses. Je satisferai ton orgueil, peut-être. Je comblerai ton désir de puissance. N'a-t-il pas déjà essayé de le faire même avec Jésus, lors de la tentation au désert? C'est un spécialiste. Méfions-nous. La convoitise est un piège dans lequel on peut tomber facilement. Il utilise également un autre stratagème beaucoup plus évident, le mensonge. Verset 25, « D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce peuple, contre ce pays et détruis-le. » Imaginez-vous que l'Éternel il allait parler à Sanhérib, tiens. Il y avait autre chose à faire. C'est un menteur. Et Satan est menteur. C'est vrai. Il est même le père du mensonge. Déjà, au jardin d'Éden, il avait menti à Adam et Ève un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup même. Au sujet du fruit défendu. Et il utilisera tous ses tours pour nous mentir et nous faire croire que c'est Dieu qui est responsable de nos problèmes ou de nos malheurs. et que Dieu ne nous aime pas, peut-être aussi parce qu'on ne le suit pas toujours d'une manière fidèle, et qu'on n'arrivera jamais à vivre une vie chrétienne victorieuse. On n'est pas assez fort. Bien sûr, c'est un maître dans l'art du mensonge. Méfiez-vous-en. Hein. Et quand tout cela ne marche pas, il a encore un tour dans son sac. Il utilise la calomnie également. Verset 29, « Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. » Oh non, 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 il n'y arrivera pas, c'est moi le chef. Et lui, s'il vous dit ça, c'est que c'est un menteur. Il est vrai que si nous tenons ferme face aux ruses du diable, celui-ci tentera certainement de nous discréditer aux yeux de notre famille, certaines fois tout simplement, ou de nos collègues de travail, ou même de nos voisins. Il utilisera tous ses stratagèmes pour essayer de nous déstabiliser afin que nous ne tenions pas ferme. Et donc, pour poursuivre ce passage, heureusement, Ézéchias a une réaction aux provocations de Rabshakeh. Et on va voir comment il réagit. Et ça va nous donner pas mal d'indications sur la manière dont Dieu veut que nous tenions ferme contre le diable. La première chose qu'Ézéchias fait, au verset 36, « Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. » 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Nous ne devons pas, nous n'avons pas à nous justifier devant les attaques de Satan. Pourquoi ? Parce que notre conduite doit parler pour nous. Quand on commence à essayer de se justifier, c'est qu'on n'a peut-être pas fait toujours ce qu'on a dit. Le silence, c'est la meilleure attaque contre Satan. On le laisse faire et c'est Dieu qui s'en occupe. Évidemment, ça ne suffit pas, le silence. Par contre, nous avons un grand Dieu. Et j'aimerais reprendre la lecture que nous avons stoppée tout à l'heure, dans le chapitre 19. Et on va lire du verset 1 à 7. C'est beaucoup moins long cette fois. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de chantiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra. Il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Waouh ! Le jugement de Dieu est sans appel. Alors, lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Alors on est souvent dépassé par les attaques de Satan. Et on se dit, jamais j'arriverai à m'en sortir. Ce que Dieu veut, c'est notre humilité. C'est qu'on reconnaisse qu'on ne peut pas s'en sortir justement. Et qu'on doit avoir un recours en lui et en lui seulement. Le roi Ézéchias, qui est roi, n'a pas hésité à s'humilier devant Dieu afin d'obtenir miséricorde. Il fait appel à Ésaïe le prophète afin de supplier Dieu d'intervenir. par nous-mêmes, nous ne pourrons pas être victorieux dans l'épreuve. C'est certain, Satan est plus fort que nous. Mais si par la prière et le jeûne nous appelons la délivrance de Dieu, alors nous verrons des prodiges s'accomplir dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 12, 10, il nous est dit « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Voilà une antinomie intéressante. « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand j'ai compris que je ne peux rien faire par moi-même et que je me confie en l'Éternel, à ce moment-là, je suis fort. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour moi. Mais pas avant. Tant qu'on n'a pas compris cela, on a des choses à apprendre. Et l'Éternel, Dieu lui-même, nous enseigne par les épreuves. Parce que vous n'oubliez pas que comme Israël, nous sommes un peuple au cou raide et qu'on a du mal à comprendre et à intégrer les enseignements de notre Dieu. Et on a souvent besoin d'épreuves répétées pour comprendre. La dernière chose que fait Ézéchias, au verset 15 que nous n'avons pas lu, mais on ne va pas le lire sinon on n'aura pas le temps, c'est la prière. Alors on a vu qu'il a demandé à Ésaïe d'intervenir et d'intercéder pour le peuple et pour lui auprès de l'Éternel, mais en fait, ça ne suffit pas. Voilà le recours universel de tous les croyants dans l'épreuve. Et c'est la force d'ailleurs suprême de l'enfant de Dieu, qui se confie dans son Dieu avec confiance. Rien, je dis bien rien, ne peut résister à la prière de la foi. Et Satan, d'ailleurs, est désarmé contre cela. Et vous avez bien remarqué qu'il fait tout son possible pour nous détourner de 5 commandements, prier en tout temps, dans Éphésiens 6, 18. Il va utiliser tous ses stratagèmes et toute son énergie pour nous empêcher de prier, ou nous faire croire que c'est inutile. La première requête d'Ézéchias est diligentée par Éliakim, Shebna et les plus anciens des sacrificateurs qui vont porter la prière du roi à Ésaïe, le prophète, afin qu'il intercède auprès de l'Éternel en faveur de Juda. La réponse de Dieu, elle ne se fait pas attendre, c'est immédiat. Apparemment, l'épreuve s'arrête. Ouf, Dieu a répondu. Et je crois que Dieu n'est pas un menteur. Donc si Dieu dit que Sanchérib va partir et qu'il sera tué dans son pays, c'est que c'est vrai. Et je pense qu'à ce moment-là, Ézéchias se détend un petit peu. Ouf. Et nous, certaines fois aussi, on a l'impression que l'épreuve s'arrête, tout va beaucoup mieux, tout s'arrange. Mais, c'est vrai qu'en effet, Sanchérib reçoit une nouvelle au sujet de Tiraka, je crois, roi d'Éthiopie, qui lui a déclaré la guerre. Alors apparemment, tout se déroule selon le dessein de Dieu. Dieu a dit, je vais envoyer une nouvelle au roi d'Assyrie pour qu'il s'en aille. C'est ce qui arrive. Mais je crois que ce roi avait la peau dure un petit peu. C'est un peu têtu. Et plutôt que de quitter le territoire de Juda directement, il envoie encore un message très belliqueux à Ézéchias, afin de maintenir la pression, je suppose, en lui disant qu'il va bientôt revenir pour terminer dans Juda ce qu'il a commencé. En fait, il défie Dieu, tout simplement, à ce moment-là. C'est un défi de trop. Alors cette fois, Ézéchias, au lieu de faire appel à un intermédiaire, va directement dans le temple de Jérusalem lui-même. Vous voyez qu'Ézéchias progresse. Au début, c'est le compromis. Après, il organise la résistance. Ensuite, il fait appel à l'Éternel par l'intermédiaire d'Ésaïe. Mais alors là, c'est terminé. Il dit non, mais je vais directement à l'Éternel. Il a évolué. Le test est salutaire pour lui. Il déplie la lettre du roi d'Assyrie devant l'Éternel. Et il prie avec foi son Dieu afin qu'il délivre son peuple de la main de Sanchérib. Alors vous allez me dire, mais bon, Dieu lui a déjà répondu. Il lui a dit qu'il allait partir, ce roi, et qu'il allait être tué. Pourquoi il insiste encore ? Et Dieu est bon. Je pense que Dieu est bon. Et il répond à Ézéchias par la bouche d'Ésaïe, cette fois qui est le prophète de l'Éternel à ce moment-là. Et il lui confirme son jugement une seconde fois. Et alors là, par contre, c'est très rapide. Parce que la nuit même, 185 000 Assyriens sont frappés et meurent de la main de l'ange de l'Éternel. Et Sennacherib, évidemment, s'enfuit à Ninive, où il est assassiné par un de ses propres fils. Quelle famille! Bon. Et l'histoire d'Ézéchias nous rappelle certainement ce que nous vivons en tant que chrétiens aujourd'hui, certainement. Et comment, évidemment, Dieu teste notre foi et nous fait grandir par les mises à l'épreuve, comme Ézéchias, nous apprenons les leçons de Dieu. Certaines fois, nous commençons par des compromis, hélas. Mais alors, les problèmes ne se règlent pas. Mais Dieu est miséricordieux, heureusement. Il est compatissant, il est lent à la colère, sinon, qu'est-ce qu'on prendrait ? Et aussi, il réitère l'épreuve, jusqu'à ce que nous apprenions à la surmonter selon sa volonté. Il nous conduit alors dans les sentiers de la justice, non pas notre justice, mais la sienne, à cause de son nom. Et alors, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous pouvons repousser les attaques de notre pire ennemi. Alors par le silence, certaines fois, on ne veut pas savoir quoi que ce soit de notre ennemi. Par l'humilité, oui, parce que nous sommes incapables de nous défendre nous-mêmes. Et par la prière, parce que nous savons que nous avons un Dieu qui combattra pour nous. Ce que nous constatons donc dans l'histoire d'Ézéchias, c'est que sa foi, donc, a été mise à l'épreuve. Mais par contre, la victoire d'Ézéchias a entraîné un renouveau sans précédent de foi parmi le peuple de Juda. Dans 2 Chroniques 32, 22, nous pouvons lire « Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui, depuis lors, fut élevé aux yeux de toutes les nations. » Alors Ézéchias a réussi dans ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Et pourtant, l'Éternel le bénit encore. Il a commencé par le compromis, il a évolué, il a appris la leçon en quelque sorte. Et Dieu l'a béni, il a béni le peuple de Juda également. Pour un certain temps, hélas, parce que nous savons que Juda par la suite a rechuté. Mais en tout cas, Ézéchias, lui, a été fidèle à son Dieu. Et c'est vrai que notre exemple de persévérance et de foi dans les épreuves impressionne. Je vous le dis, il impressionne favorablement les non-croyants qui nous entourent. Il encourage aussi les autres chrétiens, bien entendu. Et je voudrais vous lire juste un petit passage pour conclure, parce que c'est midi 5. 1 Pierre 5, verset 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et toute la gloire revient à Dieu. Amen. Amen. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole déjà, parce qu'elle est une lampe à nos pieds, Seigneur, une boussole sur notre sentier. Et Seigneur, nous te remercions pour tous ces croyants qui nous ont précédés, Seigneur, et avec lesquels nous avons des points communs, bien entendu, Seigneur. Mais leur exemple parle, Seigneur, et ils nous parlent. Et tu nous diriges par rapport à ces exemples, Seigneur, tu veux que nous combattions le bon combat de la foi, Seigneur, et que nous rejetions les ruses du diable, Seigneur, qui veut nous faire chuter, non pas par nos propres forces, mais par les forces que tu mets à notre disposition, Seigneur, parce que, comme devant la mer Rouge, Seigneur, Moïse a élevé le bras et a ouvert la mer. mais c'est toi qui agissais, Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose, Seigneur. Nous avons des mers rouges devant nous que nous ne pouvons pas traverser. Et tu nous dis, Seigneur, eh bien, par ma force et par mon bras puissant, tu pourras traverser l'épreuve. Et nous voulons te rendre grâce pour cela ce matin. Nous voulons honorer ton nom et te dire, Seigneur, que tu es le Dieu puissant qui nous a pris sous son aile. Nous te remercions pour cette matinée mise à part pour toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.